J'aurais besoin de vous, souvenirs que je veux, modelés dans le lit sonore des ciels heureux, que j'enferme en ma mémoire et mon amour. Et, sous le chuchotis de ces heures égales, du phare des jours errants, je me suis dépouillée. J'avoue que j'ai vécu, proposé par Malika Lafer et Lamia Yassine, réalisé par Hafida Malou.
Né le 27 avril 1926 à Beni Oukilem, Abdelhamid Benzine s'est engagé dans le mouvement national en fin 1940. Collégien à Sétif, il est arrêté lors des manifestations de mai 1945 et emprisonné. Il a ensuite exercé divers métiers, dont celui de journaliste. Membre de l'ALN, il est arrêté de nouveau en novembre 1956 lors d'un accrochage dans la région de Sebdou. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés et sera libéré en juin 1962. De 1962 à 1965, rédacteur en chef du quotidien Alger Républicain, et en 1990 et jusqu'à ce jour, directeur d'El Jazeer El Jumhouria, Alger Républicain. Dans la première partie consacrée à M. Abdelhamid Benzine, il raconte son enfance, bercée de poésie, de légendes, racontée par une grand-mère poétesse dont il garde un doux souvenir. 1940, militant de l'Étoile nord-africaine, 1942 au PPA, sa première prison en 1945, 1947, la création de l'OS à Soukaras, 1936, la création du PCA, ex-fédération du PCF. Écoutons la seconde partie. Quelles ont été les lacunes qu'on reprochera au PCA? Et puis aussi, avez-vous le sentiment que la critique était, donc, sera plus sévère parce que l'idéologie, la doctrine était là pour éviter de faire trop d'erreurs?
Voilà, je crois qu'il faut répondre ceci. Tout parti révolutionnaire commet des erreurs. C'est normal parce qu'on défriche un terrain neuf, vierge. Mais avec cette différence que seuls les communistes font leur autocritique. Ensuite, deuxièmement, le Parti communiste n'a pas le monopole de l'erreur. Bon, alors, ceci dit, comme tout parti révolutionnaire qui agit, qui est dans l'action, et seul ce qui ne marche jamais, qui ne marche pas, sont les seuls qui ne trébuchent pas. Je crois même que c'est mon ami, mais avec qui j'ai énormément de divergences, Aït Ahmed, qui disait un jour, il n'y a que ceux qui ne font jamais dictée qui font zéro faute. Alors je lui redonne à César ce qui appartient à César. Bon, donc, le PCA, comme tout le monde, il a ses mérites, ses faiblesses, ses insuffisances. Sa faiblesse, c'était jusqu'en 47-48, une insuffisance du sentiment national à cause de l'origine européenne, que le statut colonial, avec le code de l'indigène, etc., que le statut colonial favorisait, bon, donc ils étaient, pour ainsi dire, une sorte d'aristocratie ouvrière par rapport aux ouvriers d'origine, comme ils disaient à l'époque, indigène. Bon, donc, ça a été réparé après. Ça a été réparé après, à tel point que nous avons eu des enseignants coraniques comme membres du comité central du PCA, et notamment Gerouf, un shahid, Gerouf, des Aurès, ou la Tar Homre, ou la d'autres, etc. Alors c'est une très longue histoire.
Thank you.
1er juillet 56, l'accord FLN-PCA et l'intégration des combattants de la libération dans l'armée de libération nationale en Algérie. Ce qui m'amène à vous poser la question, monsieur Abdelhamid Benzine. La relation avec le Parti communiste français en ce qui concerne donc la question de libération nationale, vous venez donc vous l'expliquer. Et puis donc, vous venez aussi de le dire, les communistes, pour les communistes français, indépendants signifiait donc leur départ, en quelque sorte.
Oui, pour, ça, pour beaucoup, oui. Ça signifie, c'est une minorité qui s'est engagée, faut pas le... même une minorité de communistes. Qui s'est engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Bon. Tout ça serait un développement très long pour expliquer tout cela. Bon, mais il y a eu, à mon avis, des illusions, et généreuses. Hein, mais, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Bon, à l'époque, les communistes français, les communistes algériens, rêver de faire comme l'Union soviétique avec 120 nationalités réunies dans des républiques autonomes mais liées, etc., sur la base du socialisme, etc. Il n'est pas interdit, n'est-ce pas, de rêver. Et je pense qu'aucune action n'est possible si elle n'est pas précédée d'un rêve et d'une utopie. L'utopie est un instrument révolutionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut en rester là. Parce qu'après, la politique, ça devient de l'art, ça devient une science, et qu'il faut ensuite, comme disent les autres, la politique, c'est l'art du possible, qu'est-ce qu'on peut arracher à telle époque, qu'est-ce qui est possible à telle autre. Bon, si en 36, par exemple, vous avez dit, bon, il nous faut tout de suite l'indépendance, bon, est-ce que le rapport de force, l'organisation populaire était possible, pouvait arriver à ce but. Parce que quand on... Vous savez, l'histoire aujourd'hui, l'écriture de l'histoire, est très imprégnée d'idéologie au sens négatif du mot. C'est-à-dire, on se sert de l'histoire, mais on ne sert pas à l'histoire. On ne sert pas à l'histoire pour dire, par exemple, Abdelkader, il a eu du mérite, mais il a eu des faiblesses. Mokrani, il a eu du mérite, mais il a eu des faiblesses. Le PPA a eu du mérite et il a eu des faiblesses, etc., etc. C'est comme ça. C'est aussi vrai au niveau des collectifs qu'au niveau individuel. Sinon, on serait tous des anges, sans sexe. C'est pas... Alors, donc, il faut resituer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'histoire, il faut toujours avoir une double vision. D'abord, la vision de l'époque où le fait s'est passé. Le resituer dans le contexte. Par exemple, quand on parle du code de l'indigénat, il faut savoir les contraintes que faisait le code de l'indigénat. Il était interdit, jusqu'en 48, théoriquement, de créer un parti purement algérien. Il fallait qu'il y ait des Français, même un groupe sportif. Même un groupe sportif, le code de l'indigénat l'imposait. Bon. Donc, il y a, avec la vision d'alors, situer le contexte politique, économique, social, culturel, le niveau de conscience des gens, là, bah, enfin, dans un pays où il y avait 92 à 94% d'analphabètes, bah, il faut quand même restituer les choses. Et la vision d'aujourd'hui.
Alors, monsieur, vous allez répondre à mes questions aussi. La première, c'est donc le Parti communiste français. Il a changé après 1945, après les événements du 8 mai 45, où il y a eu ce massacre. Est-ce qu'il a changé? Et puis, pour parler de l'histoire et de l'écriture, est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup d'historiens ont éludé la question ou y ont répondu par le mutisme le plus complet sur l'action des communistes algériens?
Oui, eh ben, sur ce plan-là, il y a aussi beaucoup à dire, vous savez. Bon, d'abord, des historiens. Au sens scientifique du mot, nous n'en avons pas beaucoup en Algérie. Hein. Nous n'en avons pas beaucoup en Algérie. Hein. C'est le système. Hein. C'est d'abord la période coloniale et puis ensuite le post-indépendance. Hein. L'histoire, c'est quelque chose de tabou. Hein. C'est parce que chacun veut faire, comme je l'ai dit, chacun veut faire l'histoire à sa manière, qui l'arrange à lui. Bon. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Il y a non pas de l'histoire, mais des essais historiques et des témoignages sur l'histoire. Je pense qu'il y a un progrès. Il y a des gens comme Mohamed Teguerla Rahmoud, des gens comme Harbi, on peut dire ce qu'on peut penser ce qu'on veut sur ce qu'il écrit. Il y a Kaddash aussi, enfin, ce sont tous des amis que je connais, c'est pas un degré. Bon, qui ont écrit des choses intéressantes. Et puis, je parlais d'histoire, bon, ce serait trop long de vous montrer, mais je vais vous dire par exemple ce témoignage de M. Youssoufi, qui a été dans l'OS, un des responsables de l'OS, aussi connu Mohamed Youssoufi, dans son tome 2 de l'Algérie en marche. Voilà, en page 98, ce qu'il dit, par exemple, de la lutte des communistes. Je reviendrai après au PCF, hein, parce que, en fait, le PCF, à partir des années 50, le PCA était complètement indépendant du PCF. Les rapports entre le PCA et le PCF étaient les rapports normaux qu'il y avait entre tous les partis communistes qui appartenaient à l'international communiste de Lénine. Dans le cadre du mouvement ouvrier, ce qu'on appelait le mouvement, le MCOI, Mouvement communiste et ouvrier international. Bon, donc, nous les écoutions, parce qu'ils avaient une expérience beaucoup plus longue que la nôtre, mais aussi nous écoutaient, mais c'est le PCF, à partir des années 50, ne dictait absolument pas la politique du PCA.
Non, je ne parlais pas de dictée, mais une question toute simple, c'est-à-dire, est-ce que le 1er novembre 54, est-ce que vous avez eu le soutien du PCF?
Le 1er novembre, non, mais quelques jours après, oui. C'est-à-dire que le 2 novembre, il y a eu un communiqué du PCA qui a paru dans Algérie Républicain, et le 7 novembre, de l'organe du PCA, le 7 novembre, où on justifiait la lutte armée, Bon, le PCF a mis peut-être un peu plus de temps pour essayer de comprendre, mais il a toujours soutenu l'action du PCA.
Abdelhamid Benzine, en 1953, vous êtes journaliste et vous contribuez donc à la rédaction du journal Alger Républicain, qui lui est né en 1938. Et le journal n'était pas un simple journal, hein. C'était un journal de revendication où vous dénonciez tout. Racontez-nous l'ambiance de ce journal et comment vous le publiez et combien de fois il a été donc interdit.
Eh bien, vous savez, hein, toujours pour abréger, je vous recommande, et je recommande aux lecteurs de lire notre livre « La grande aventure d'Alger Républicain ». Ce livre s'arrête en 1965. Et dans ce livre, vous trouverez, écrit par les trois responsables d'Alger Républicain en 65.
Donc c'est Boualem Khalfa, Henri Alleg et vous, Abdelhamid Mezi.
Voilà, donc, vous trouverez 40 ans d'histoire du mouvement national. Et en même temps, dans ce cadre du rôle joué par Alger Républicain, qui effectivement était un journal pas comme les autres, qui était un journal, une tribune anticolonialiste de toutes les composantes du mouvement de libération nationale. Bon, maintenant, un autre chapitre qui s'est ouvert à partir de 89, que j'appellerai la folle aventure d'Alger Républicain. Donc, l'ancien avec rien, mais avec des bonnes volontés, d'abord sous forme de numéro d'essai, puis de mensuel, et puis d'hebdomadaire, jusqu'à ce qu'il devienne, à partir de novembre 1990, un quotidien. Et aujourd'hui, 2 ans après, nous sommes toujours dans le même pétrin, les mêmes difficultés. C'est un miracle quotidien que nous faisons, parce que nous n'avons pas les moyens financiers, les moyens techniques, que nous sommes un journal indépendant qui, or, être indépendant sur le plan politique, sur le plan idéologique, c'est finalement s'aligner tout le monde. Et effectivement, nous avons beaucoup de lecteurs qui nous aiment, qui nous aident, qui nous lisent, mais nous avons énormément de forces politiques qui sont hostiles à ce journal. Je ne suis pas devin pour savoir quel sera encore l'avenir de ce journal. Nous continuons à nous battre pour maintenir ce journal parce que nous pensons qu'il a un rôle patriotique important dans la lutte pour la démocratie, pour le pluralisme, etc. à jouer. Mais Wahedna, tout seul, nous ne pourrons pas supporter tout le poids de la démocratie.
Vous, en tant que directeur, vous écrivez toujours les éditoriaux?
Oui, bah oui, quand j'ai le temps, c'est-à-dire quand je ne suis pas pris par les problèmes de gestion, problèmes qui sont terriblement contraignants et prenants. Bon, et évidemment, j'écris, pas seulement des éditos, à l'occasion d'anniversaire, j'écris des témoignages sur mes compagnons de lutte. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire les témoignages que j'ai écrits sur Mohamed Boudiaf Lairahmou, bien sûr Didouche Mourad, ou sur l'Arbi Ben Mehdi, ou sur Ben Boulaïd, ou d'autres, tous ceux avec qui j'ai travaillé dans les années 40, pour créer l'os et pour créer les structures qui devaient prendre en charge la lutte armée.
Mais pour revenir à l'époque, c'était un militantisme féroce, parce que là je relève, vous dénonciez les misères dans les villes, dans les campagnes, les familles, l'alphabétisme, le racisme, vous étiez en quelque sorte le porte-parole des opprimés. Et le colonialisme, comment réagissait?
Réagissait justement en nous coupant les vivres, les finances, c'est-à-dire en nous créant mille difficultés. Par exemple, on le raconte dans le livre, par exemple, il nous imposait de payer dans les 24 heures ce que nous devions verser à la sécurité sociale. Parce que bon, nous on essayait de gagner avant que l'argent ne rentre. La diffusion, par exemple, comme aujourd'hui, ça me fait 20 mois, il y a l'ENAMEP droit qui me doit 500 millions, j'ai pas un sou. N'est-ce pas? Donc il y a toujours un décalage comme ça, j'ai un milliard et quelques plus qui sont dehors, que je n'arrive pas à récupérer. Pourtant, c'est du secteur d'État. Alors, à l'époque, on faisait appel aux travailleurs et aux lecteurs. Et vous savez, moi, j'ai assisté à ces scènes absolument extraordinaires. À l'époque, nous étions au boulevard Aix-la-Ferrière, qui s'appelle aujourd'hui Khmisti, qui est occupé par le FLN. C'est les éditions du FLN, parce qu'il a tout pris. Et vous avez une délégation de dockers qui venait avec leur chéchia, plein de sous qu'ils avaient cotisé pour aider Alger Biblica à payer sa dette et à tenir. Les mineurs, les petits-enfants qui vendaient le journal, les criaient à l'époque, eh bien, ils s'aiment ouf, ils sont ardents, mais il y a le petit sous qu'ils avaient pour aider Alger Biblica.
Et aujourd'hui, vous avez combien de lecteurs?
Je ne sais pas, vraiment, c'est très difficile, il n'y a aucune statistique. C'est vraiment pas pour cacher, je n'ai rien à cacher, hein. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de sondage, il n'y a pas d'organisation. Vous savez, nous confions notre vente soit aux ENAMEP, secteur public, soit à des privés, nous n'avons aucune statistique. L'ENAMEP est arrivé, une ENAMEP, je ne veux pas la citer ici, dans cette émission, parce que je risque d'être attaqué en diffamation, mais c'est une réalité. Elle a donné le compte rendu à un journal, à un confrère, en disant vous avez 120% d'invendus. 120% d'invendus, vous imaginez. Alors, comment contrôler, comment savoir ce qu'est de l'homme? Ce que je sais, c'est que, si vous voulez, c'est le nombre, le courrier que je reçois. Alors, de maquisards, de tollards, d'anciens lecteurs du journal. Par exemple, le mercredi, nous avons une page de retraités. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de lettres que nous recevons des retraités, hein, parce que le seul qui... Vous prenez le journal d'aujourd'hui, vous avez toute une lettre de quelqu'un qui a été licencié, d'un cadre qui a été licencié, qui ne sait plus où s'adresser, qui m'envoie cette lettre, et elle passe dans une page entière aujourd'hui, où vous pouvez vérifier dans le journal d'aujourd'hui, qui est victime des mafias. Alors, je veux dire que notre journal, par rapport à d'autres, nous ne cherchons pas le sensationnel. Nous ne cherchons pas le scoop qui fait vendre. Et c'est vrai que ça fait vendre. Parce que moi, je le dis toujours, hein, si je veux vendre moi, je n'ai qu'à faire un journal pour nous. Et là, je serai le plus vendu du pays. Mais je cherche à être un journal crédible. Je cherche à être un journal incrédible, un journal sérieux, un journal de référence. Et ensuite, qui regarde plus vers le bas que vers le haut.
Cette année-là, l'hiver avait été rude. La boue et la neige avaient rendu les chemins impraticables et immobilisé chez eux les hommes et les bêtes. Le couvre-feu rendait les nuits plus longues, plus noires. Heureusement que le bois ne manquait pas dans les cheminées. Pour le bois précisément, Yemna Nouara n'avait pas sa pareille. Personne ne savait comment elle le choisit sec, dur. On n'avait pas besoin de se racler les poumons et la gorge à souffler dessus pour qu'il prenne feu. C'était un plaisir de le voir se consumer en de belles flammes claires, à bout bleu. Il est vrai que Yemna Nouara, en prévision des jours de neige, n'hésitait pas à aller loin dans la forêt. Elle y mettait des journées entières et il fallait voir tout le bois qu'elle pouvait porter sur son dos. C'était une scène familière du village d'Anouk que de voir, au crépuscule, Yemna Nouara, pliée sous son immense fagot de bois, escalader, à petits pas, le sentier menant au village. Scène familière aussi de la voir sur la place, entourée, bousculée par une bande de gamins criant pour recevoir qu'il est gland, qu'il est mûr, qu'il est coquelicot afin d'en faire éclater les pétales au-dessus du poing. Bizarre aussi, cette habitude qu'elle avait prise Yemna Nouara de ramener des fleurs. À la bonne saison, son fagot était noyé sous les boutons d'or, les violettes, qu'elle distribuait aux enfants. Est-ce pour cela qu'on l'avait nommée Nouara ? Qu'importe. Pour tous, elle était une mère aimée et respectée, et dans chaque maison du village, elle était chez elle. On se la disputait parfois, les jours de viande surtout, où, dans chaque foyer, elle avait sa part et souvent, en plus, celle d'un enfant.
En 1955, M. Abdelhamid Benzine, vous adhérez au FLN. 1956, vous rejoignez le Maquis, la région de Sebdou, Tlemcen. Vous passez donc un an au Maquis, un passage difficile dans votre vie. C'est là où vous écrivez votre premier livre qui a pour titre « Journal de marche ». Ce séjour au Maquis, si on peut appeler ça comme un séjour.
Oui, là aussi, donc, je vais encore abréger, hein, vous savez. En fait, si vous avez lu le livre de Mohamed Teguian, qui s'appelle « Alger en guerre », et si vous avez lu aussi la guerre d'Algérie, les trois tomes d'Henri Alleg, sous la direction d'Henri Alleg, bon, il y a un certain nombre, parce que j'ai été interviewé, etc., il y a un certain nombre de faits que peut-être vos éditeurs ne connaissent
pas. Quels sont les faits les plus marquants?
Les faits les plus marquants, donc moi j'étais dès 55, j'étais en relation avec le Maquis, avec Chihani, Bachir, que j'avais eu comme militant en groupe dans 1949 à Constantine, qui m'a envoyé quelqu'un, donc des Aurès. Il m'avait chargé de mission que j'ai accompli. Et puis je suis allé aux Aurès. Je suis revenu des Aurès pour des raisons, je vous dis, que vous trouverez dans les livres de Teguia ou d'autres. Et puis j'ai été chargé par mon parti d'aller rejoindre le Maquis de Sebdou. Après avoir été, avant, j'avais été responsable des combattants de la libération de la région d'Alger. La région d'Alger. J'avais comme adjoint Georges Acompora, ex-condamné à mort, qui est toujours vivant, et Castel, qui était aux affaires étrangères et qui est mort récemment. C'était mes deux adjoints. Et quand je suis allé au Maquis, j'ai rejoint le Maquis, c'est Abdelkader Guerrouge, ex-condamné à mort, qui m'a remplacé à la tête des combattants de la libération. Et moi, j'ai été envoyé au Maquis donc, de Sebdou pour rallier les paysans communistes, parce qu'il y avait une très forte implantation du PCA dans cette région, dans plusieurs douars, pour rallier les paysans communistes à la FLN. Et c'est ce qui s'est fait, effectivement. Bon, le reste, vous le connaissez.
Malheureusement, donc, en novembre 1956, au cours d'un accrochage avec l'armée coloniale, vous êtes arrêté, puis condamné à 20 ans.
20 ans de travaux forcés, etc., et travail de l'alpha. Bon, maintenant, vous me posez la question sur un souvenir, par exemple, de cette période de Maquis. Je vais vous dire le jour où j'ai eu le plus peur au Maquis, quand j'étais militaire avec mon arme, etc. Et quand qu'on accrochait les légionnaires français. Le jour où j'ai eu le plus peur, mais ça je ne l'ai pas raconté encore dans mes livres, c'est le jour où nous avions sorti deux traîtres de la ville de Sebdou, du village de Sebdou, et qu'une trentaine de kilomètres plus loin dans la forêt, il fallait les égorger. Et bon, comme j'étais dans la section, j'étais commissaire politique dans la section, j'avais peur que le lieutenant, le chef de section, parce qu'il pouvait désigner n'importe qui d'entre nous pour faire l'opération, pour exécuter l'opération. Donc j'en étais au garde à vous, sous un clair de lune, maigre. Et donc moi je me dis, ils veulent peut-être m'éprouver, est-ce que vraiment je suis engagé? Et le responsable, l'officier, le responsable de section, c'est un ancien de l'Indochine, un ancien berger d'ancien de l'Indochine, parce qu'à l'époque, on confiait, si vous voulez, la direction militaire à des gens qui avaient une expérience militaire. Et là où j'ai peur, là vraiment, j'ai fait dans ma culotte, je m'excuse, parce que j'avais peur qu'ils me désignent pour égorger ces deux traîtres. Alors, tu es au loin avec des balles, ça va, tu vois, on va pas, mais égorgé de sang-froid, j'ai bien, et là, je vous assure que ça a été une scène terrible. Dieu merci, je crois que Hanalia, il ne m'a pas désigné, il a désigné quelqu'un qui était bouché dans la vie civile.
Cette année-là, la guerre faisait rage et, une nouvelle fois, l'occupant parlait du dernier quart d'heure. Il faisait à peine jour quand Anou fut investi. Les habitants, brusquement réveillés, furent traînés sur la place du village. Fouilles, interrogations, coups, cris, insultes, on fit l'appel. Seul manquait Yemna Nouara, ce dont ne s'inquiétait pas l'officier français qui commandait l'opération. Il connaissait la vieille Nouara pour l'avoir rencontrée plusieurs fois sur les chantiers, pliée sous son immense fagot de bois. On lui expliqua qu'elle avait dû aller dès l'aube à la forêt et qu'elle rentrerait au crépuscule, comme d'habitude. Tout cela, d'ailleurs, était sans importance pour le capitaine qui voulait, avant tout, savoir si quelqu'un avait hébergé ou vu le nommé Ali, un petit maigre mais dangereux terroriste, natif de ce village. Il avait été signalé du côté d'Anou. Et, assurément, quelqu'un de vous le cache, menaça l'officier. Bien entendu, personne à nous n'avait jamais hébergé ni vu Ali. Le capitaine, qui était des services psychologiques et qui avait appris qu'il fallait être comme un poisson dans l'eau, se heurtait à ce phénomène qui rendait incohérent le langage des habitants toutes les fois qu'il avait à répondre à de pareilles questions. Cet Ali-là, par exemple, personne à nous ne se souvient de lui. Il y a bien deux ou trois Ali. Mais ils ont quitté depuis longtemps le village et leur famille serait bien contente de les revoir. Notre village, il est calme, mon capitaine. Nous, on cherche le pain et c'est tout.
Alors là, je continue. Vous avez beaucoup écrit sur cette période, hein, qui fut donc une période d'enfer. Je parle de la période de la prison. Vous témoignez aussi contre l'oubli pour vous et pour tous ceux qui ont vécu cette période. Mais il y avait quand même une solidarité agissante. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un ou deux faits de cette période-là?
Oui, il y a tellement de faits qu'il est difficile de choisir. Bon, c'est des moments exceptionnels, bien sûr. C'est des moments exceptionnels. Un exemple en 1945 de quelqu'un qui est mort sous les tortures, vous pouvez, je crois, le trouver dans l'Amri Safia, dans ce que j'appelle la montagne et la plaine. C'est des petits récits. J'essaie de rendre hommage aux gens obscurs, justement. Aux gens obscurs, à ceux qui sont... voilà, c'est ce livre-là.
Et la montagne et la plaine.
Voilà. La montagne et la plaine, j'essaie de... je raconte aussi dans l'Ambèze, plusieurs faits. Je raconte dans le journal de marche aussi, bon, c'est les les femmes qui pour nous ravitailler dans notre section de la LN, dans la montagne, racontent cette scène de femmes qui déguisent un mariage pour nous apporter à manger. Pour nous apporter à manger. D'enfants. Alors, les souvenirs se bousculent dans ma tête, je m'excuse vraiment, se bousculent dans ma tête, parce que privilégier tel fait par rapport à tel autre serait peut-être injuste. Serait peut-être injuste pour la mémoire et justement contre l'oubli.
À nous, dans les foyers, c'était la désolation. Tout était sans dessus-dessous, vaisselle cassée, linge déchiré, provisions éparpillées, piétinées. À l'entrée du village, fidèle à son habitude, apparut Yemna Nouara. Elle marchait à petits pas, son immense fagot de bois sur le dos. Mais d'enfants joyeux et bruyants, il n'y eut point ce jour-là. Le capitaine, avec un semblant de sourire, s'avança vers elle. Il n'ignorait rien. Certes, de cette vieille, de ses conditions de vie, de son fils qui travaillait en France et dont elle était sans nouvelles depuis des années. Il se souvient même qu'elle est présumée née en 1900, ce qui lui faisait 58 ans. Et d'ailleurs sympathique, cette mère Noara, comme il l'appelle ainsi. Au fond, le capitaine ne peut s'empêcher de rendre hommage à cette vieille qui n'arrête pas de travailler dur pour vivre pauvrement, et avec cela, résignée et contente de son sort. Mais aujourd'hui, le capitaine est pressé et pas content. Il ne dira qu'un petit bonjour à la vieille. Yemna Nouara le remercie. Oui, sa santé est bonne. Son fils n'a toujours pas écrit. Le capitaine est gentil. Au revoir, dit le capitaine. Plié sous son immense fagot de bois, Yemna entra à petits pas dans le village. Aujourd'hui, elle restera chez elle. D'abord, elle est fatiguée. Ensuite, on ne peut déranger personne après une journée comme celle-ci. Dans sa grande pièce en terre battue, elle s'assied à même le sol et, avec des gestes lents, mille fois répétés, se met à détacher la corde qui retient la lourde charge de bois. La corde dénouée, elle se penche doucement vers l'avant puis lentement vers l'arrière, comme pour s'allonger sur le dos, et dépose délicatement son immense fagot.
En 1962, donc, vous reprenez vos activités au sein d'abord du PCA. En même temps, vous êtes rédacteur en chef à Alger Républicain. 1965, il est de nouveau interdit. Et vous passez dans la clandestinité après le coup d'État de juin 1965. Vous décidez la création de l'ORP, Organisation de Résistance Populaire. Pourquoi le journal a été interdit?
Le journal a été interdit sans l'être, tout en l'étant. C'est toujours les ambiguïtés depuis l'indépendance. Parce que 2 heures après la réussite du coup d'État, j'ai été appelé chez moi, je suis monté à l'RTA pour rencontrer Qaïd Ahmed, qui était porte-parole du Conseil de la Révolution. Ils m'ont demandé de sortir Alger Républicain, ils l'avaient arrêté à l'imprimerie, de refaire un autre numéro avec la déclaration du Conseil de la Révolution, en disant, ben là c'est fini, etc. Alors je leur ai exprimé mon sentiment personnel en me disant je ne suis pas d'accord avec ces méthodes, ça nous fait entrer dans une période de turbulence qui ne servira pas notre idéal et nos idées et notre pays. Bon, et puis j'ai demandé à consulter mes camarades, donc j'ai consulté mes camarades et nous avons refusé, à l'époque, nous avons refusé de nous soumettre au coup d'État. Et au dictat du coup d'État. Donc à partir de là, Alger Républicain, les locaux étaient occupés, tout nous a été pris. Déjà en 62, nous avait pris tout ce que nous avions avant. En 55, l'armée française nous avait pris ce que nous avions. En 62, le FLN a hérité de ce que nous avions. Et en 65, tout ce que nous avions a été pris. Les locaux, les archives, les photos, je les vois de temps en temps sortir dans des journaux du FLN, etc., etc. Donc, et puis, bon, nous avons créé ce mouvement politique qu'on a appelé l'ORP, l'Organisation de la Résistance Populaire, avec la gauche du FLN, pour nous opposer au coup d'État, pour dire que c'est un précédent très grave et que ce n'est pas comme ça que nous allons édifier notre pays. Bien, donc, tout cela bon, a amené ce que vous savez, la clandestinité, la répression. Au niveau d'Alger républicain, dans petite équipe que nous avons eue, nous avions 14 collaborateurs en prison. Et ça, vous pouvez trouver leur témoignage dans un livre qui a été édité par l'édition de Minuit en France qui s'appelle « Les torturés d'El Haraj ». Ou bien vous pouvez aussi trouver un certain nombre d'informations de cette époque dans le livre de Béchir Hajali, « L'arbitraire », par exemple. Bon, alors, donc, ça a été la très longue clandestinité, ça a été la répression très dure, ça a été les tortures. Et puis jusqu'au moment en 1974, après 1972, quand il y a eu les nationalisations, etc., c'est-à-dire qu'un certain nombre de revendications qui étaient celles de la gauche, ce qu'on peut appeler la gauche, si ce mot a un sens dans l'Algérie, donc le renforcement du secteur public, du secteur d'État au niveau de l'économie, etc. Donc à partir de là, il y a eu des rapports indirects avec le pouvoir.
Monsieur Abdelhamid Benzine, nous sommes donc en 1992. Un congrès extraordinaire du PACS est prévu pour la fin de l'année, c'est-à-dire le 24 ou le 25 décembre 92, sauf s'il est reporté, pour changer de sigle. C'est vrai que vous êtes abattu, ému, vous dites « c'est la première fois dans ma vie militante que j'assiste à un tel phénomène ». Pourtant, M. El Hachmi, Chalif explique, il dit que cette décision par la conjoncture nationale et internationale, c'est aussi la conséquence d'un processus historique objectif, l'écroulement du modèle russe du socialisme et ses conséquences. Alors, de tout ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, d'abord, sur le plan tout à fait informatif, là, vous n'avez peut-être pas lu le journal d'aujourd'hui, le congrès est renvoyé au 22 janvier. Bon, mais ce n'est pas un congrès en réalité, c'est le congrès d'une toute petite fraction et moins d'un tiers du PAX. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est effectivement triste et dramatique. Parce que le PAX, c'est un symbole. Il symbolisait quelque chose. Il symbolisait d'abord le pluralisme là. Tout le temps qu'il y avait un parti unique, lui, il était là, sur le territoire national, en tant qu'un autre parti, celui de la classe ouvrière, celui des pauvres, celui des opprimés, celui des producteurs. Alors, on ne peut pas comme ça liquider un parti, une idée. C'est tellement facile, de toute façon, tellement facile de détruire, et c'est tellement difficile de construire.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, le mot socialisme et peut-être communisme ne fait pas frémir les gens?
Non, à mon avis, ce sont des préjugés, ça. Ce sont des préjugés. Parce que toute idée neuve, toute idée neuve, demande du temps pour s'implanter. Vous savez, bon, vous mettez une graine pour un arbre. Bon, vous n'êtes pas sûr d'abord qu'il pousse. Et puis ensuite, quand il pousse, et avant de devenir le chêne séculaire, l'arbre qui donne de l'ombre, qui protège du soleil, il faut beaucoup de temps.
Mais le mot socialisme, on l'entend depuis 30 ans.
C'est le mot socialisme, vous savez, derrière l'option socialiste qu'il y a eu en Algérie, depuis 1962, il y a eu en réalité l'édification d'un capitalisme d'État et d'un capitalisme sauvage. Il n'y a jamais eu de socialisme. Ben, référez-vous aux devises du socialisme. Bon, les Hachmichifs aujourd'hui, hein, si vous... il ne s'agit pas de faire le procès d'un camarade qui a même été un ami, qui je l'espère restera un ami, parce que nous nous retrouverons dans des rassemblements plus larges, dans la lutte contre le féodalisme, etc. Il ne faut pas se tromper de cible. Je l'ai écrit 1000 fois dans le journal. Bon, mais j'ai des explications à donner sur ces retournements. Moi, ma conviction est que l'Algérie a besoin d'un parti socialiste. Elle a besoin d'un parti de classe. Elle a besoin d'un parti anticapitaliste. Bien sûr qu'il faille adapter ça aux conditions du pays, etc. Ça, c'est un autre problème. Ce sont des débats internes. Mais il ne faut pas tomber dans la panique et le défaitisme. Or, ce qui m'étonne de le Chmichilif, au-delà des aspects de la procédure, qui n'a rien à voir avec la démocratie, hein, annoncée comme ça, lui et ses ex-amis, qui sont maintenant qui ont démissionné du PACS, cet acharnement à vouloir détruire, un symbole, c'est-à-dire que le PACS n'a jamais été au pouvoir. Le PACS, il a été réprimé, ses militants ont été torturés, ils ont connu la clandestinité, ils ont été près des travailleurs, ils n'ont jamais eu aucun privilège, ils sont la conscience des d'une certaine manière, du patriotisme en Algérie. Alors pourquoi faire du mimétisme et faire comme à Moscou, où effectivement les partis communistes là-bas ont eu des dérives, des déformations bureaucratiques, où il y a eu de la répression, où il y a eu des manquements à la démocratie, etc. Ça n'a rien à voir. L'essentiel, l'idée du socialisme qui, plus tard, qui est celle du communisme, à une autre étape supérieure. Et c'est quelque chose d'humaniste. D'un humanisme absolument extraordinaire qui veut que les enfants aient même chance au départ. Alors, le socialisme a 70 ans. Il y a un modèle qui a essayé d'édifier dans la pratique le socialisme. Il a réussi d'une certaine manière. Il y a eu quand même Stalingrad. Il y a eu la défaite du fascisme. Il y a eu le fait que la Russie retardataire était devenue une superpuissance. Et puis, il y a eu toutes les dérives, etc., qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a la contre-révolution qui s'est installée dans ces ex-pays socialistes, dans ces ex-états socialistes.
Monsieur Benzine, vous créez un parti, votre sigle serait
Quel que soit le sigle, ce n'est pas l'important. Le contenu, il doit se réclamer du socialisme et du socialisme marxiste. Parce que, jusqu'à présent, il n'y a pas mieux que Marx. Même si ce n'est pas encore la science infuse, parce qu'en sociologie, en matière de sociale, il n'y a pas encore de science exacte, n'est-ce pas ? Mais c'est des avancées. Donc il n'y a pas mieux que le socialisme tel qu'il a été défini par Marx pour essayer de créer, en tâtonnant bien sûr, un projet de société qui soit au profit du peuple, c'est-à-dire des gens pauvres, des travailleurs, des producteurs, et non pas simplement au profit de castes et de clans.
Dieu merci, dit Yemnanouara en se relevant pour aller allumer sa petite lampe à pétrole. À la lumière vacillante, tout paraît sans dessus-dessous dans la pièce. Yemna n'y jette qu'un coup d'œil discret. Elle s'affaire de nouveau sur son fagot. Elle sépare les branches, parlant à haute voix comme pour s'encourager. Voilà, c'est fini, Dieu merci. Cette fois-ci, j'ai eu vraiment peur, dit alors le fagot. Moi aussi, dit Yemna, mais Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous, dit Ali qui se dégage. Petit maigre, du fagot, je crois que le danger est passé.
Est-ce que donc, le socialisme peut-il être mobilisateur dans l'Algérie de demain? Ou alors faudra-t-il trouver d'autres concepts pour édifier le projet de société souhaité par le peuple aujourd'hui?
Bon, avant de parler de l'Algérie de demain, il faut parler de l'Algérie d'aujourd'hui. Bon, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une Algérie en crise, c'est une Algérie qu'on a mise à genoux, qu'un système a mise à genoux. Il faut qu'elle se redresse, il faut qu'elle se redresse sur tous les plans, politique, économique, culturel. Il faut être jaloux, veiller très jalousement sur la souveraineté de ce pays. Il faut pouvoir créer, bon, mais sinon c'est des slogans politiques, c'est-à-dire créer des emplois, des logements et tout, intéresser la jeunesse, la mobiliser. Bon, alors tout ça, c'est sur le plan politique. Mais je veux revenir, parce que vous me faites perdre là. Je veux revenir, non pas encore une fois, pour faire le procès de mon ami Lhashmi, mais voilà ce qu'il écrivait dans South Chab numéro 191 du 1er au 15 novembre 1990, page 14 et page 15. Alors, c'est deux pages entières, mais je vous cite simplement un paragraphe, où maintenant il a changé. Il dit, parlez de lui, étant personnellement passé par le fondamentalisme islamique, par le FLN de la lutte de libération et par la LN, comme l'ont été d'ailleurs sous différentes formes tous les communistes de ma génération, j'ai trouvé dans le marxisme et le socialisme scientifique la philosophie et la conception du monde, la solidarité qui préfigure un monde humanisé, débarrassé des antagonismes de classe et qui me renvoie à la relecture dialectique, car c'est une redécouverte à un niveau qualitativement supérieur de l'imam Ali quand il dit « Ma ja'a faqirun illa mimma muta'abihi ghaniyun ». Voici ce qu'il écrivait. C'est ça, c'est ça. Bon, moi je comprends plus. Ça, c'est juste avant le Congrès. Or, aujourd'hui, il annonce, il dit, il faut faire un parti non communiste. Mais en quoi les communistes algériens, de quoi peuvent-ils être coupables? Bien sûr, tous les ultra-réactionnaires, dans les derniers numéros de Al-Mujahid Al-Usbu'i, Ibn Aisha, écrit un tas de mensonges, mais vraiment de grossiers mensonges. Et il ose écrire, oubliant tous les chouhadas des communistes qui ont de la guerre de libération et toute la lutte menée par ses militants. Alors il fait de l'opportunisme, de la platitude. Il est connu d'ailleurs, je m'excuse, il est connu pour cela, parce que il a même été vice-président de l'Association des Amis d'Algérie Républicaine. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le temps de... Comment dire, j'essaie de réfléchir à une chanson de Léo Ferré qui parle de ces choses. Oui, avec le temps, oui, tout s'en va. Et beaucoup de valeurs s'en vont. C'est dommage. C'est vraiment dommage.
Monsieur Benzine, parce que vous êtes un homme optimiste, quand on connaît tout votre itinéraire, tout votre parcours, on ne peut que vous saluer. Vous avez écrit « Je sais que l'avenir sera beau ». En êtes-vous certain aujourd'hui?
Oui, attention à beauté. Hein. Quand je dis « il sera beau », je veux dire qu'il sera meilleur que ce qui était avant. Je pense que l'Algérie indépendante, 30 ans après, est meilleure que l'Algérie coloniale. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je pense que l'Algérie, dans 30 ans, sera meilleure que l'Algérie de 92. C'est une conviction profonde, pas simplement subjective, mais à partir d'une analyse, à partir de ce que j'appellerais une conscience historique. ne s'agit pas de faire de l'optimisme béat, de dire tout va pour le mieux, tout est bon, tout est beau, etc. Il y a aujourd'hui des gens, des Algériens qui meurent, et des Algériennes, tués par le fanatisme, tués par l'obscurantisme. Il y a des gens qui se battent, il y a des ouvriers qui vivent mal, il y a des cadres qui vivent mal. Il y a une Algérie malade, très malade, qui a un genou, hein, c'est pas qui a un genou, disons un genou. Il faut qu'on la redresse tous ensemble. Mais je reste optimiste. Pourquoi? Parce que j'ai une énorme confiance en tant que marxiste dans le mouvement des masses, dans les profondeurs. Et permettez-moi peut-être pour terminer ce dialogue, cet entretien très court, c'est une citation que j'ai faite au moins deux fois dans mes lectures. J'ai trouvé dans la correspondance de Madame Kollontai, qui a été une des compagnes de Lénine, une compagne de Lénine dans les années 20, qui a été la première ambassadrice de l'État soviétique en Suède. D'une longue situation, je voudrais redire ça, que j'ai fait dans le journal il y a quelques jours. Elle dit ceci, à mon avis, avec beaucoup de lucidité, et avec cette morale révolutionnaire qui l'a caractérisée, et c'était une aristocrate, hein, donc parenthèse. Alors elle dit ceci, ouvrez les guillemets, à chaque époque, les gens pensaient que la leur était particulièrement dure, particulièrement sanglante et marquée par des changements. On parcourt l'histoire chapitre par chapitre et on voit que rares furent les générations qui ne connurent pas d'ébranlement et de lutte. Et pourtant, l'humanité va de l'avant, lentement, dans le sang jusqu'aux genoux, mais elle monte par les gradins de l'histoire vers un avenir plus humain. Et ces gradins sont encore bien nombreux, et nos réalisations encore peu importantes par rapport à notre but, le bonheur des travailleurs et le travail comme bonheur. On demande, l'humanité, dans sa marche vers le bonheur, fait des expériences. Elles peuvent réussir ou elles peuvent échouer. Par exemple, la révolution bourgeoise 1789 en France, mais avant qu'elle ne célèbre son bicentenaire en 1989, avec toute la fanfare qu'il y a eu, elle a connu la restauration monarchique féodale. Elle a connu deux empires. Et au niveau de la répression, vous savez, c'est la révolution 89, c'est la révolution française qui a inventé la guillotine. Alors qu'on vient nous dire aujourd'hui que le communisme a été répressif, c'est pas le communisme, c'est ceux qui ont l'appliqué, les Staline, etc. Mais l'idée communiste, l'idée socialiste vivra éternellement.